jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs. Pour remettre l'imagination au pouvoir en ce début d'année, ça ne fera pas de mal. Et si pour faire face aux crises énergétiques, environnementales, économiques, sociétales que nous traversons, et si on avait juste oublié de regarder dans le rétroviseur, de nous intéresser à toutes les idées loufoques et géniales d'inventeurs fous et géniaux que l'histoire a laissées sur le bord de la route. Des semelles chauffantes de Lavoisier, à la voiture à hydrogène de Perrier, du photophone de Bell, à la batterie automobile d'Edison, pourquoi et comment faire la contre-histoire des innovations énergétiques pour les mettre au service de notre futur commun? Voilà ce que nous avions demandé en septembre dernier à deux empêcheurs de penser en rond, Cédric Carl et Éric Dussert, initiateurs d'un formidable projet de recherche participative sur leur site paléo-énergétique et dans un ouvrage assez surprenant prenant rétro-futur, ou comment les innovations du passé peuvent illuminer notre présent et éclairer notre avenir. Bienvenue.
Bienvenue à Livermore, en Californie, où l'on trouve la plus ancienne ampoule du monde. En 1972, nous avons découvert que l'ampoule suspendue au plafond de la caserne des pompiers était unique. Nous ne savions pas qu'elle était si ancienne. Jusqu'au jour où un journaliste a commencé à enquêter. Il a pu interroger d'anciens pompiers, alors nonagénaires, qui lui ont confirmé que l'ampoule avait brillé sans interruption depuis 1901.
L'ampoule centenaire d'Adolphe Chaillet brille toujours, et ça fait tout de même 117 ans que ça dure, c'est pas mal. Bien loin de l'obsolescence programmée de nos ampoules modernes, dénoncées dans ce documentaire, prête à jeter. Et s'il n'y avait justement rien à jeter, mais au contraire tout à exhumer dans les innovations oubliées du passé. Bonjour Cédric Carl.
Bonjour Caroline.
Bonjour Éric Dussert.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour partager donc cette contre-histoire des innovations énergétiques, publiée aux éditions Buchet-Chastel. Ça s'appelle Rétro-futur, c'est un livre collaboratif, fruit d'une recherche participative, initiée entre autres sur votre site, donc paléoénergétique.org, on va y venir. D'autant que nous avons, amis auditeurs, je vous le signale, un exemplaire et un seul de ce livre à vous faire gagner. Alors l'idée, Cédric Carl, vous êtes chercheur et designer, c'est d'initier un programme de recherche sur toutes les innovations énergétiques oubliées, les plus astucieuses comme les plus folles, de les réinterroger aujourd'hui, à l'heure de la transition énergétique, de les revisiter finalement avec nos outils technologiques actuels.
C'est ça. C'est en travaillant sur les questions d'innovation depuis maintenant une petite vingtaine d'années quand même, que on s'est dit à plusieurs qu'il nous manquait en fait une base de données exhaustive des brevets et des innovations énergétiques. Pourquoi ? Puisque de manière collégiale, on voyait plein de choses passer qui n'étaient que des redites et qui se faisaient passer pour des innovations auprès des journalistes qui, eux, relaient de manière systématique des choses en disant « Tiens, on a trouvé les solutions à nos problèmes énergétiques contemporains qui, en fait, n'en sont pas du tout, qui sont souvent des choses qui sont refaites et qui sont pas à la hauteur, je dirais, des enjeux contemporains et de la rapidité à laquelle on doit agir. »
Alors, rechercher les innovations d'autrefois pour préparer finalement les solutions de demain. Éric Dussert, vous avez le goût justement de l'archive, vous êtes coordinateur de la numérisation des imprimés à la Bibliothèque nationale, mais aussi auteur entre autres d'un ouvrage sur les écrivains oubliés, La forêt cachée. Vous dites, Éric, dans la préface de ce livre Rétro-futur, il n'est jamais inutile de fouiller pour retrouver ce que nous ignorions avoir perdu. C'est ça.
Mais oui, on passe son temps à ne pas perdre beaucoup de choses. Et tout est fait, le dispositif a été mis en place il y a très longtemps. On dépose des brevets, par exemple, et on les dépose pour pouvoir les conserver. Or, si on ne va pas mettre le nez dedans pour farfouiller et pour voir ce qui serait éventuellement réutilisable aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser.
C'est une boîte à outils, en fait.
C'est une boîte à malice, une boîte
de Pandore, mais sans méchant dedans.
Exactement. Quand on se penche, par exemple, sur les revues d'électricité d'il y a un petit peu plus d'un siècle, on peut s'apercevoir que le nombre de types de batteries électriques qui existent est absolument incroyable. Enfin, c'est fou. Elles ont tout un nom, le nom de leur inventeur, etc. Et des soucis d'industrialisation et puis de rentabilité ont fait qu'on a jeter le dévolu sur quelques cas très spécifiques et on a abandonné tout le reste.
Et aujourd'hui, il y a urgence de s'y retourner, d'aller regarder dans ces archives autour de la question pourquoi et comment faire une contre-histoire des innovations énergétiques. On va commencer donc par regarder dans notre rétroviseur sonore avec le mix paléo-énergétique d'Hugo Violas.
1947. Jean Légret, le découvreur du vaccin contre la fièvre jaune, vient de faire une nouvelle découverte qui pourrait bouleverser l'économie mondiale. Il vient d'identifier une bactérie qui permettrait de transformer des déchets alimentaires en pétrole. Monsieur Dubled perd son emploi de chimiste en 1934 et décide de devenir chauffagiste. En 1940, Monsieur Louis le contacte et lui propose un projet, fabriquer de l'hydrogène pour faire rouler un camion. Auguste Mouchot, professeur de sciences physiques, construit en 1866 un moteur solaire. C'est Abel Pifre qui s'emparera de l'invention pour la transformer en une presse capable d'imprimer 500 exemplaires d'un journal qui sera pour l'occasion baptisé Le Soleil.
Le Soleil, journal solaire éphémère de 1882. Vous n'en avez pas encore retrouvé d'exemplaire, mais vous nous racontez tout de même, Cédric Carl, peut-être cette histoire inspirante de l'imprimante solaire d'Augustin Mouchot et d'Abel Pifre.
Oui, c'est ça. Ce sont des petits génies de l'époque, en fait. Un est prof de maths, l'autre est mécanicien hors pair. Et ils vont imprimer des journaux à l'énergie solaire. Dans Paris, en 1882 et à d'autres occasions. Et voilà, du coup, c'est une des pièces que nous, on adore avec Eric et qu'on espère retrouver, en fait, ce Soleil Journal. Il existe forcément quelque part, donc on ne désespère pas de le retrouver. Et ça fait partie des projets qu'on trouve dans Paléo Énergétique. Ce sont des projets qui permettent à des étudiants de s'emparer de recherches et de, pourquoi pas, voilà, rechercher ce journal dans les archives. Et je pense qu'Eric saura nous guider.
Donc rechercher à la fois, oui, le journal dans les archives et en même temps essayer aujourd'hui de voir si on pourrait refaire la même chose, refaire mieux avec d'autres outils technologiques, Eric.
En venant dans ce studio tout à l'heure, j'ai vu Cédric allumer sa cigarette avec un appareil solaire. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir des imprimantes bureautiques solaires également. Toutes ces solutions étaient presque miniaturisées, parce que c'était une petite presse que Mouchot
et Pifre... À l'époque, en 1882.
Tout à fait, hein. C'était une petite presse d'atelier d'épreuves. Que ces personnes aient pu, il y a plus d'un siècle, imprimer un journal avec de l'énergie solaire, prouve bien qu'on a quand même raté quelques marches.
Et qu'aujourd'hui, en plus, alors au Sud, et là où sont beaucoup nos auditeurs, en Afrique ou ailleurs, l'énergie solaire est à développer. Là, il est évident qu'il faut que tous les grands esprits s'y mettent pour retravailler et revenir là-dessus, Cédric.
Bien sûr, on a l'exemple des pompes solaires au Sénégal dans les années 60. Qui ont été réalisés par une société à l'époque qui s'appelait la Sofretes, dont Frédéric Caille, un de nos paléo-chercheurs passionnés par l'histoire solaire en Afrique, a exhumé. Il est allé même sur place avec notre physicien de l'époque, Jean-Pierre Girardier, et ils ont tout simplement réexhumé des choses qui avaient déjà été faites. Donc ils ont montré à l'université de Dakar, ils ont même ouvert des vieux labos où il y avait encore des restes de tout ça, en disant « Regardez, ça a été fait dans les années 60, pourquoi vous ne le feriez pas aujourd'hui ?» Et si vous voulez, ces pompes solaires thermodynamiques étaient une vraie révolution à l'époque. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça a été racheté par des labos français et ça a été fermé.
Ça a été fermé. On va revenir sur le pourquoi de la fermeture de ces idées extraordinaires solaires. De même que ce qu'on a entendu dans le mix, il y a des bactéries qui pourraient produire du pétrole. Là aussi, projet abandonné alors qu'il a été
initié par Jean Legret, qui n'est autre que l'inventeur du vaccin contre la fièvre jaune en 1947. Éric Dussert.
Ah, là, je vais laisser ma langue au chat. C'est Cédric qui va s'attaquer aux bactéries. Il est beaucoup plus calé que moi.
Oui, en fait, nous, on trouve hallucinant que ce monsieur qui est mandaté à un moment donné, hein, parce que voilà, les guerres, première, deuxième et autres, sont, et celles en cours aussi, sont liées à l'énergie, hein, qui est un peu le sang de nos sociétés. Et à l'époque, Jean Legret est mandaté, comme le sera Jules Ferry à la Première Guerre mondiale, parce que les Français n'ont plus de manganèse. Et donc, ils doivent faire des piles, et ils font les piles Jules Ferry à l'hydrogène avec oxydation à l'air. Et bien, à l'époque, Jean Legret est mandaté pour faire des recherches sur le biogaz. Voilà, pour qu'on puisse avoir de l'énergie à disposition avec des matières organiques. Et lui, il va un petit peu plus loin que ça. En fait, il dit qu'il peut produire directement du pétrole brut. C'est-à-dire que ces bactéries, si vous voulez, mangent ce qu'il y a à manger au début, et puis elles mutent, et puis après elles font du brut. C'est-à-dire qu'elles font un peu de biogaz au début, mais après, il y a mutation. Alors, on ne sait pas comment il la faisait. Nous, on a fait explorer brièvement son brevet parce qu'on n'a pas assez, je dirais, de ressources humaines pour l'instant à universitaire, parce mais que, bientôt oui.
Parce qu'il faut vraiment préciser que vous avez, quand on parlait de paléo-chercheurs, vous en avez comme Eric qui vont fouiller dans les archives, voir ce qu'il y a eu, ce qu'il y a eu comme brevet, mais ensuite il y a des étudiants qui peuvent reprendre et re-essayer les manips solaires, les manips de piles, les manips électriques.
Je ne sais pas combien on a d'étudiants en France et d'enseignants qui cherchent des sujets. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de branches énergétiques et technologiques avec des gens qui essayent de faire avancer les choses. Les jeunes sont extrêmement sensibles. Hein, je veux dire, vous demandez à un jeune aujourd'hui qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans le domaine énergétique. Il parle d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique. C'est vraiment ça aujourd'hui. Et du coup, là, on a un sujet qui peut être étudié par des gens qui travaillent sur les biotechnologies et qui est un sujet de diplôme, voilà, sur une année ou un sujet de groupe, etc. Donc nous, on n'a pas eu la force d'aller beaucoup plus loin. Mais on a compris que son brevet avait été...
À propos des bactéries qui peuvent faire du pétrole. Ouais,
voilà, il a été ajourné pendant 5 ans. Donc effectivement, hein, on sort de la Première Guerre mondiale. Voilà, on ne va pas dévoiler un brevet comme ça avec un retentissement international. Parce qu'à l'époque, quand on regarde des articles qui sont produits sur les clés, c'est qu'un chercheur français a trouvé la solution à tous nos problèmes énergétiques quand même. Mmh. C'est vrai que si on peut faire avec de la matière organique de manière accélérée, si vous voulez, avec ce Bacille perfringens, qui est n'être autre qu'un dérivé d'une bactérie qui mange tous les tissus, si on peut faire du pétrole avec ça, du brut, bah voilà, en fait, on obtient, si vous voulez, un pétrole neutre en CO2 parce qu'il a été fait avec de la matière organique.
On peut se demander quand même pourquoi ça n'a pas marché à l'époque. Pourquoi est-ce que justement ces inventions, on le sent bien avec cette bactérie faire du pétrole. Sur le coup, on se rend bien compte que ça pourrait être très important. Puis ça tombe en désuétude, on l'oublie.
Oui, une question de conjonction du moment, des besoins technologiques, de l'offre de la société est plutôt tiraillée dans un sens, dans un autre, etc. Et les grands équilibres économiques sont aussi une cause d'oubli ou de mise au placard.
On va y venir à ces questions économiques, à ces questions de brevets aussi, mais avant, je propose un nouvel éclairage en forme de question soulevé par le physicien Christophe Clanet, qui était récemment notre invité. On l'écoute tout de suite sur RFI.
Quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup aux moteurs. Il y en avait un qui m'avait passionné, c'est appelé le moteur Stirling, qui était un moteur à combustion, externe, dans le sens qu'il y avait une chambre de combustion qui n'était pas en contact avec le fluide caloporteur que l'on utilisait pour se détendre et se comprimer de façon à faire bouger le piston, disons. Et l'avantage de ce moteur, c'est qu'on pouvait brûler à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une voiture avec du bois, avec tout ce qui produisait de la chaleur pouvait faire tourner le moteur Stirling. Et donc, mais ce moteur n'a jamais vu le jour, quasiment. Donc il a été utilisé par une compagnie qui a fait faillite, je pense. Parce qu'il y avait, disons, des grands groupes qui n'avaient aucun intérêt à ce que ce genre de moteur se développe. Et donc, je pense que des innovations, il y en a tout le temps autour de nous qui sont prêtes à répondre à nos besoins, mais celles qui vont sortir, c'est-à-dire c'est un peu une sorte de mouvement comme ça, brownien, il va y avoir une sélection naturelle qui va s'opérer comme pour la sélection naturelle de Darwin, et celle qui va l'emporter, c'est celle qui sera, disons, au bon endroit, au bon moment, et qui ne perturbera pas trop le système. Voilà, donc il y a tout un tas de conditions, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une bonne idée que forcément elle va être acceptée. C'est-à-dire qu'il y a plein de conditions pour qu'elle le soit.
Tu veux réagir ça sur ce moteur Stirling ou sur le fait que quand on feuillette ce livre magnifique rétro-futur, on se dit que c'est insensé le nombre d'innovations autour des transports. Les premières voitures étaient des voitures électriques, autour des moteurs à hydrogène, autour de tout ce qui est transport, avions. Il y a eu énormément d'innovations, d'idées qui n'ont pas été poussées au bout, mais on se demande pourquoi véritablement. Cédric ?
J'ai envie de dire, les enjeux n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Bon, même si déjà en 1890 on parlait des changements climatiques avec Svante Arrhenius et que nous on collectionne aussi un peu toutes ces brochures des gens qui ont parlé des changements climatiques à l'époque, les enjeux n'étaient pas les mêmes. On avait le pétrole, c'était on avait devant nous des centaines d'années de pétrole, surtout au rythme de consommation à l'époque.
Oui, je pense que ça joue beaucoup.
Les questions n'étaient pas les mêmes. On n'est pas dans l'urgence énergétique.
On risquait pas
aujourd'hui.
La pénurie. C'est un peu plus étonnant cette histoire de d'innovation non prise en compte. C'est par exemple les murs trombes, par exemple.
Les murs trombes.
Les murs trombes Michel, qui en fait permettent avec une surface extérieure qui permet de capter la chaleur, un espace d'air qui permet la circulation de l'air entre le mur, l'intérieur et l'extérieur, l'extérieur, enfin la couche intermédiaire entre le mur et cette surface captant la chaleur, ça pourrait être installé partout depuis un siècle.
Ça pourrait être intégré dans les architectures, bien sûr.
On ne comprend même pas comment cette solution de chauffage gratuite n'est pas déjà hyper exploitée.
Vous parlez de géothermie aussi.
Il y avait bien sûr.
La géothermie est connue depuis extrêmement longtemps.
Tout à fait. On peut parler de kokatsu japonais aussi, qui permet de chauffer une pièce en chauffant uniquement un bout de la pièce. Enfin, la partie utile de la pièce peut être chauffée et pas l'intégralité du même volume.
Oui, c'est-à-dire qu'en plus, il y a eu des innovations différentes selon les lieux de la Terre où l'on vit, selon les questions énergétiques qui se posent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vivier insensé.
C'est pour ça qu'on a traduit le site paléo-énergétique.org en arabe. On l'a traduit en japonais. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a entendu Thomas Ortiz, hein, qui faisait la voix tout à l'heure
qui est un des co-auteurs de ce livre.
Voilà, des teasers, qui est lui déjà au Japon, pour faire aussi des conférences sur la paléo-énergie là-bas.
La paléo-énergie.
Voilà, et d'ailleurs qu'on embrasse bien, en fait.
S'il nous écoute depuis le Japon, allez, on va lui dédier un petit morceau musical autour de la question pourquoi et comment faire une contre-histoire des innovations énergétiques. On s'arrête sur le moteur à explosion de Chanson Plus Bifluoré.
Quel est le principe du moteur à explosion? L'énergie thermique produite par combustion. Quelle est sa dynamique et ses multiples fonctions? Voyons le principe du moteur à explosion. La soupape d'admission s'ouvre, le piston aspirant ainsi le carburant. Le piston comprime en remontant le carburant. Ensuite a lieu le troisième temps. Les soupapes étant fermées, le piston redescend. Les soupapes s'ouvrent, le piston pousse en montant, le piston pousse en montant, et tout ce système fonctionne en utilisant l'énergie thermique du mélange carburant. Aspiration, compression, temps moteur, expulsion sont les données de la propulsion. Mais attention, nous ne parlons ici que des types de moteurs à explosion. Oui! Quel est le principe du moteur à explosion? Quel est le principe du moteur à explosion?
Voilà.
Le principe d'explosion. Le principe d'explosion.
Quel est le principe du moteur à explosion?
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 L'énergie thermique produite par combustion. Produite par combustion, produite par combustion, combustion, combustion.
Le principe du moteur à explosion, les chansons plus bifluorées sur RFI. Vous dites que l'énergie est une drogue dure, Cédric Carle. que l'énergie, finalement, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas... pendant longtemps, toutes ces innovations qui permettaient d'économiser l'énergie, elles ont un peu été laissées de côté.
Oui, effectivement, l'énergie, c'est... Bon, on s'en rend plus compte maintenant parce qu'on a grandi avec. Mais imaginez à l'époque de l'invention de l'ampoule électrique et des réseaux électriques, recevoir la lumière, recevoir l'information chez vous. En fait, on a fait quand même un bond, je dirais, sociétal et technologique qui était assez fou. Et ça, c'est très addictif. Je veux dire, si vous imaginez du jour au lendemain qu'on va vous enlever l'électricité à la maison, vous n'êtes pas d'accord. Donc finalement, voilà, c'est l'autonomie énergétique et les réseaux. Bah, en fait, c'est une manière de tenir tout le monde bien sagement devant sa télévision. En tout cas, je trouve que c'est... On a un rapport à l'énergie, si vous voulez, qui est aussi celui des bactéries hein, et des phénomènes biologiques. On va bouffer l'énergie des autres. Il faut qu'on bouffe l'énergie qui est autour de nous.
Alors, autour de la question pourquoi et comment réinterroger à l'heure de la transition énergétique les plus géniales et les plus folles inventions oubliées du passé, il y a évidemment la question du brevet et certaines questions qui fâchent. Je propose d'en écouter une, justement, soulevée par la sociologue de l'environnement, Anne Atlan.
La question que je me demande, c'est pas seulement si est-ce qu'il y a eu des bonnes idées qui ont été abandonnées, c'est bien possible que oui, mais c'est pourquoi est-ce qu'elles ont été abandonnées, et j'ai quand même peur que dans un certain nombre de cas, ce soit les lobbies des énergies actuelles, en tout cas c'est ce qui se dit pour un certain nombre de moteurs, de modes de propulsion, qui ont acheté des brevets pour les enterrer, pour qu'on continue à fabriquer de l'énergie qui rapporte le plus d'argent à ceux qui ont déjà le plus de pouvoir. Et c'est une vraie question. Et peut-être, effectivement, il faudra les déterrer dans ces brevets. Mais déjà, il faudrait que les lobbies laissent ces brevets être exploités.
Qui veut répondre à cette question des brevets, Éric Dussert ?
Mais je veux bien répondre en deux mots. Le premier, c'est que la sociologue a parfaitement raison. C'est une activité, enfin la production d'énergie ou de consommation d'énergie est généralement une activité économique qui entre dans les lois de la concurrence, du gain, etc. Donc il n'y a pas à tortiller là-dessus. Ce qu'on peut aussi envisager à propos des brevets, c'est qu'on se retrouve face à des inventeurs qui n'ont pas toujours ni le sens pratique, ni le sens prospectif, ni même le sens collectif, et qui soit se débrouillent pour avoir un brevet déposé dans des conditions qui font qu'ils ne sont pas réalisables aisément, ou qui se retrouvent à des moments où technologiquement tel ou tel matériau qui serait nécessaire, n'est pas forcément très disponible. Que le rendement de l'invention n'est pas aussi importante qu'elle pourrait l'être, en tout cas qu'elle n'est pas concurrentielle du point de vue du rendement. Et puis on a aussi le phénomène un petit peu plus rare, mais sans doute réel aussi, du cas de l'inventeur pathologique qui, comme certains collectionneurs, ne cédera jamais son invention. Et même s'il dépose un brevet, c'est pour se garantir la propriété de son invention, mais jamais ne souhaite partager en réalité.
Donc ça, c'est pour les brevets, les inventeurs avec les brevets du passé. Mais est-ce que parfois, quand on regarde cette masse de possibilités, finalement, qui s'offraient à nous, pourquoi est-ce qu'on les a tous laissés de côté ? Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'industriels qui veulent absolument, justement, garder leur monopole énergétique ?
Ça, j'ai envie de dire, c'est sûr. Enfin, voilà, il y a la question des lobbies. Nous, on n'essaye pas trop de perdre notre temps avec le grand complotisme, etc. Pourquoi ? Parce qu'on perd notre temps. Les coupables, on ne va pas les retrouver. De toute façon, ils sont tous morts. Par contre, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a du matériel à utiliser. Eh bien, on va concentrer notre énergie, non pas à trouver des coupables, mais à voir ce qu'on peut faire avec. Et si vous voulez, il y a bien sûr peut-être des brevets qui ont été mis de côté, et d'ailleurs même peut-être sans dépôt de brevet, pour qu'il n'y ait pas de traces. Mais en fait, rien que dans ce qui a été produit, nous, on pense qu'il faut s'y mettre et qu'il ne faut pas perdre de temps à trouver des coupables, mais plutôt à voir ce qu'on peut faire avec tout ça.
À aller fouiller dans tous ces brevets, dans toutes ces inventions, parfois folles, parfois complètement folles, mais réalisables aujourd'hui et qui n'étaient pas autrefois.
Mais je pense que parfois les idées sont tellement folles qu'elles ne sont pas folles du tout.
Par exemple,
j'ai été impressionné il n'y a pas si longtemps que ça de voir un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, d'un enfant en Afrique qui allait à l'école avec un sac à dos solaire. C'est-à-dire que son trajet s'effectuait à pied, dans un sens vers l'école et au retour vers la maison. Et le soir, son sac à dos contenait assez d'énergie ainsi qu'une petite lampe qui lui permettait de faire ses devoirs à la maison. Voilà, c'est on n'a pas besoin d'un brevet pour ça. On a juste besoin d'une idée, d'un sens pratique et d'une envie de bien-être pour tout le monde. En fait, on a c'est juste une envie de partager le bien-être et que tout le monde puisse disposer du minimum utile et pratique.
Et si innover, finalement, alors plus qu'avoir de nouvelles idées ou de nouvelles technologies, si innover, c'était aussi se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer. Je propose un nouvel éclairage rétro-futur du chercheur en informatique Roberto Di Cosmo. Alors lui, il est comme vous, un grand défenseur de tout ce qui peut être libre, du logiciel libre notamment. Il monte une bibliothèque universelle, une bibliothèque d'Alexandrie, du code source en ce moment et du logiciel. On l'écoute.
Petit à petit, j'ai pris conscience du fait que la technologie n'est qu'une toute petite partie du problème. La grosse partie du problème, c'est l'être humain. On en a plein d'exemples. Si vous prenez vos claviers, là, les claviers des ordinateurs, il y a toujours les claviers QWERTY ou AZERTY comme ça. Alors l'histoire, pour les gens qui savent, c'est qu'à l'origine, ces claviers-là ont été optimisé pour ralentir la personne qui tape sous la machine, parce que c'était pour les machines mécaniques dans lesquelles il y avait encore les petites baguettes qui tapaient là. Donc les dactylographes étaient tellement rapides que les baguettes s'est croisées tout le temps. Et donc les fabricants à l'époque avaient demandé de trouver la disposition des claviers la pire possible pour faire en sorte de ralentir les gens. Et donc comme ça, les ralentissaient. On n'a plus aucun sens, tout ceci n'a strictement plus aucun sens, parce que les ordinateurs aujourd'hui vont des millions de fois plus rapide que nous, mais on continue de l'utiliser parce que l'insérer dans les mœurs, c'est on continue de faire ce type de choses-là. Donc vous voyez, des fois la rétro-future dans la technologie, c'est juste aller remettre en question les choix qu'on a faits à un moment donné, qui n'étaient pas des choix technologiques, qui étaient des choix économiques, sociaux, humains, politiques, pour un contexte donné qui n'existe plus et qui a changé.
J'imagine que vous partagez l'avis de ce chercheur, Roberto Di Cosmo, Cédric Carl.
Magnifique. C'est effectivement un bel exemple de ce qui peut se passer pour une invention énergétique aussi. C'est-à-dire qu'il y a un contexte qui fait que ça ne fonctionne pas à ce moment-là et qu'aujourd'hui, ça peut très bien fonctionner.
Et inversement, c'est-à-dire qu'on va s'accrocher à des choses qui ne fonctionnent plus. On est aujourd'hui dans une période où on sait que la Terre a des ressources limitées et qu'on a besoin de plus en plus d'énergie. Donc, on est dans un modèle qui ne fonctionne plus et on continue.
On est sur des claviers énergétiques et AZERTY, ouais, complètement.
C'est à peu près ça. Et votre idée, là, justement, d'aller réexhumer, rechercher les brevets, les idées, les inventions, l'innovation, ça participe de ça aussi. C'est-à-dire, on change quoi ? On change le modèle, on change notre manière de regarder justement
le passé,
le présent.
J'allais dire, on change le processeur et le processeur, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'on on prend l'objet invention ou l'objet innovation et on le regarde sous un angle simplement différent. Aujourd'hui, il nous paraît complètement atterrant, enfin, moi ça m'atterre, de s'apercevoir que l'invention de Mouchot et de Piffre...
L'invention de Mouchot et de Piffre, donc ce journal solaire.
C'est surtout le capteur d'énergie solaire. Hein. Peu importe l'imprimerie, on l'avait déjà inventé.
Mais en 1880...
Oui, dans les années 80, 1880, c'est-à-dire que maintenant, ça fait bientôt 140 ans, qu'on ait disposé de cet outil qui était fonctionnel, qui fonctionnait. Et on sait que l'être humain, il abandonne jamais une technologie quand elle remplit ses besoins, quand elle répond à un besoin. C'est le cas du livre, par exemple. On a essayé de nous vendre le livre électronique. On voit très bien que le livre papier subsiste, et pour des raisons extrêmement précises, que je ne vais pas détailler ici, mais cette façon de capter l'énergie solaire démontre qu'elle est efficace, et en particulier en Algérie, où travaillait Mouchot, et qu'on fasse comme si elle n'existait pas, c'est un nœud au cerveau historique absolument phénoménal.
Vous comprenez pourquoi on fait comme si elle n'existait pas, et pourquoi finalement, quand vous vous mettez à exhumer les archives, on retrouve comme ça, et on ne va pas les citer tous, mais soit les moteurs à hydrogène, les
mes compétences techniques ne sont pas très grandes, donc pour beaucoup de cas, je resterai très perplexe. Mais en revanche, sur la captation de l'énergie solaire, là oui, je suis vraiment face à un abîme de réflexion, parce que ça me paraît humainement, en termes d'éthologie humaine, il y a un truc que je ne m'explique pas.
Cédric, vous comprenez un peu mieux, vous qui êtes à l'initiative de tout ce paléo-projet, et avec vos paléo-chercheurs énergiques et qui travaillent sur l'énergie, vous comprenez mieux ?
Justement, plus on cherche et plus on comprend. Sur l'énergie solaire, Mouchot est aussi enseignant à Tours. Il faut savoir que Léonard de Vinci a fini sa vie là-bas. Il faut savoir que nous, on a retrouvé des choses qui ne sont pas très bien identifiées de Léonard de Vinci. Mais Léonard de Vinci voulait faire fondre du bronze à l'énergie solaire pour se fabriquer un immense cheval. On va fêter l'année prochaine l'anniversaire de sa... en Touraine, justement, de Léonard de Vinci. Et nous, on aimerait bien faire refondre du bronze de manière symbolique pour lui rendre hommage. Et je pense que si à l'époque... Léonard de Vinci qui devait faire fondre ce bronze, mais ce bronze a été saisi pour fabriquer des canons à l'époque au dernier moment, voilà.
D'un seul coup,
il avait plus de matos. S'il l'avait fait à l'époque, je pense que l'énergie solaire aurait pris un tournant majeur et qu'aujourd'hui, on se poserait moins de questions sur ces technologies-là. Voilà, il y a des moments comme ça où il y a des faits sociaux et des contextes qui fait que tiens, d'un seul coup, on n'a plus le bronze... pour faire notre immense culture de cheval. Et du coup, ça ne se fait pas. Et du coup, ça prend une autre voie.
On fait la guerre à la place, hein, finalement. Je rappelle à nos amis auditeurs qui veulent participer hein, que votre site paléoénergétique.org est ouvert à toutes les bonnes idées, à toutes les bonnes volontés, même à toutes les folles idées. Qu'on peut en savoir plus dans cet ouvrage aussi rétro-futur, magnifiquement illustré. Nous avons un exemplaire pour vous, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. L'imagination est au pouvoir sur RFI et la transition énergétique a déjà commencé avec Jacques dans la radio.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Avec des gens qui sont intelligents, et moi j'ai pas d'avis parce que je trouve que ça dépend. Je suis passé dans le futur, j'avais trop envie d'y repasser. Je me suis fait plein de contacts, là-bas les gens ont plein de projets, et moi je n'existais plus. C'est pas important. J'ai entendu ta voix dans la radio.
C'est Jacques qui le chante dans la radio sur RFI. C'est un de vos collègues, un de vos camarades, puisque vous, Cédric Carl, dans ces, vous faites du solar sound system solaire. C'est et ça. Je crois que Jacques aimerait bien tourner avec vous.
Ben oui, on fait le solar sound system maintenant à la station E, à Montreuil. On a notre propre lieu où on présente d'ailleurs Paléo Énergétique. L'expo est permanente et en fait, elle est visitée par des gens du jeudi au dimanche qui viennent nous voir, par des écoles, des IUT qui viennent se renseigner un peu sur tout ça.
Et on peut faire la fête au solaire.
Et on fait la fête au solaire et à l'énergie renouvelable grâce à Enercoop. Et on a croisé Jacques il y a quelques temps qui nous a proposé une tournée chez Emmaüs, en mode Solar Sound System, et on fait la tournée des Emmaüs de France. On n'a pas donné naissance à ce projet, mais
un petit appel à Jacques, sur RFI.
Passe nous voir, vu que tu es à Montreuil, et on discute de
surtout
tout ça.
Surtout qu'on rappelle quand même que pour faire fonctionner une radio, bah, il faut de l'énergie. Vous rappelez aussi dans ce livre Rétro-Futur, comment Max Bah, l'autre clin d'œil de RFI Planète Radio, a réussi à alimenter une radio locale en République du Congo avec des bœufs qui tournent, et puis aussi ailleurs avec de l'huile. Toutes les idées, toutes les énergies sont bonnes à prendre, à exhumer, à recueillir.
Bah oui, et puis l'énergie de la diffusion, parce que finalement, ce qu'on fait avec Solar Sound System, on le fait à Berlin, Hong Kong, Tel Aviv, Biarritz, Lausanne, Marseille, et bientôt peut-être à Kyoto, là où il y a Thomas, à Singapour, et dans d'autres endroits, puisqu'on on nous appelle beaucoup pour diffuser ce projet. Et on a une web radio, bien sûr, hébergée à l'énergie solaire, radio3s.org. Ça permet de brasser tous ces gens et toutes ces communautés qui ont envie d'agir aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a un petit peu marre de parler de tout ça. On a envie d'être sur le terrain, de montrer qu'on peut faire des teufs à l'énergie solaire, de montrer qu'il y a plein d'inventeurs qui ont fait des choses et qu'il faut s'en emparer, tout simplement. Et donc, ça fait partie d'un grand tout sur la question de l'information et de la culture énergétique.
Et qu'il y a plein de manières de s'en emparer. C'est-à-dire, quand on est retraité, on peut aller fouiller dans des vieux journaux, dans des sites pour trouver des idées. Quand on est un jeune universitaire, on peut se mettre sur un projet. Il y a plein de manières de mettre son imagination, passée ou présente, au service d'un futur plus astucieux et plus économe en énergie. À ce sujet, nouvelle question soulevée au présent et au futur, et même sur deux roues, par le physicien Benoît Roman.
Je pense que dans le vélo, justement, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a évolué depuis longtemps. C'est une vieille idée qui est toujours actuelle, mais les dernières innovations sur le vélo, je pense que ça fait un bon moment. Et à mon avis, moi, je suggère comme innovation, c'est maintenant, c'est le vélo électrique, mais je ne sais pas si c'est une solution si astucieuse que ça, au sens où les batteries ne sont peut-être pas non plus écologiquement des solutions très, très bonnes. Et par contre, ce qui pourrait donner un nouvel élan au vélo, c'est le problème qui m'arrive quand je descends une côte et que je dois m'arrêter au feu rouge en bas. J'aimerais stocker cette énergie qui est de la descente. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de stocker ça sous forme d'un ressort, un stockage très momentané d'énergie, qui serait une énergie mécanique? Et à mon avis, là, on pourrait aller encore plus loin en vélo.
Comment stocker l'énergie en vélo? Bien sûr, grosse question, mais comment stocker l'énergie? C'est une immense question. Qui peut répondre, Benoît Roman?
Je ne vais pas répondre complètement à cette question, mais effectivement, le vélo. Mais imaginez le nombre de vélos qui se retrouvent dans des centres de gymnastique tous les jours, l'énergie qui est perdue sur des rameurs, sur des voilà, toute cette énergie, on ne sait pas la sauvegarder.
Et oui, l'énergie qu'on dépense sur toutes ces machines, on pourrait la stocker, elle pourrait
en marchant,
stocker.
On a parlé des trottoirs qui permettent d'emmagasiner aussi l'énergie des pas, voilà, on va pas faire de la science-fiction. Mais en tout cas, on a des pistes et on a des tas de sources d'énergie qui sont encore à exploiter.
Cédric Carl, il y a des pistes côté récupération d'énergie, alors sur un vélo par exemple?
Alors je reviens sur les pas, puisqu'on a les cellules piézoélectriques, mais ça c'est des trucs très anecdotiques dont la presse s'empare et fait tout un pataquès. Alors
mais quand il y a une boîte de nuit qui marche avec
c'est très communicant, soit, mais c'est pas là qu'il faut taper si on veut avancer sur la question de la transition énergétique.
C'est où qu'il faut taper?
Les vélos, oui, il y a pléthore de possibilités mécaniques avec les ressorts et les choses comme ça qu'on sait très bien faire pour emmagasiner au freinage et peut-être remettre à disposition à l'accélération. Moi, j'ai un ami des architectes, designers qui est à Orléans, qui m'a dit « j'ai bossé 3 ans sur un projet, mais là, je vous le donne puisque ouais, j'en peux plus et voilà. Donc on a un truc mécanique à faire bosser par des élèves. Lui, il a commencé à prototyper ça. C'est tout est sur le pédalier en fait. C'est Marek que je salue et Marek, n'hésite pas à passer nous voir pour ramener ton vélo à Montreuil et qu'on fasse justement parce qu'on doit avec des amis faire un hacking du vélo justement à Montreuil. On doit organiser ça avec Véloptimo et avec la Fabrique des communs. Département mobilité, on doit voilà réunir des gens pour faire des cadenas connectés pour que les halls d'immeubles puissent accueillir des vélos et qu'on se les échange et qu'on se les partage sans forcément faire appel aux grands opérateurs. Voilà, il y a de plus en plus de démarches aujourd'hui qui intègrent le vélo dans les nouveaux bâtiments, on va dire. Et Véloptimo répond à ça en faisant des cadenas connectés et en réfléchissant à comment partager tout ça.
Alors, comment partager tout ça en commun? Comment innover? Alors, c'est Bertrand Piccard qui préface votre livre, qui a fait le tour du monde à bord de son avion solaire, Solar Impulse, qui le dit aussi dans la préface de cet ouvrage. Donc, l'impossible ne réside pas dans la réalité, mais dans notre esprit. Le futur sera peut-être ce qu'on en rêve, si on arrive à le rêver. Histoire de rêver justement et de penser autrement, puisqu'on n'a pas le choix, je propose d'écouter Bertrand Piccard, qui était descendu de son avion solaire jusque dans notre studio, pour nous inviter justement à changer d'habitude et d'altitude, à penser autrement que ce qu'on fait d'habitude.
Si on est dans une situation qui nous mène dans le mur, c'est parce qu'on a une manière de penser qui nous mène dans le mur. Donc, essayer de continuer à penser de la même façon, ça ne va pas nous aider. Ce qu'il faut, c'est... Moi, c'est ce que j'appelle changer d'altitude. C'est comme dans un ballon. Si vous changez d'altitude, vous prenez d'autres courants aériens, d'autres vents qui vous amènent dans d'autres directions. Et pour ça, vous lâchez du lest, hein, vous lâchez du sable. Dans la vie, il faut aussi changer d'altitude, dans les vents de la vie, dans notre manière de penser. Ce qui veut dire qu'il faut lâcher le lest de nos certitudes, de nos habitudes, de nos croyances, de nos convictions, de manière à avoir davantage de choix. Il faut lâcher ce qu'on a finalement appris et qui nous conditionne souvent dans des mauvaises directions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire l'opposé de ce qu'on a appris. Ça veut dire qu'il faut envisager de faire l'opposé. Ça veut dire qu'il faut réaliser qu'entre une manière de penser et son extrême, inverse, eh bien, il y a des milliers d'autres manières de penser. Et que la liberté consiste à choisir dans toutes les autres manières de penser certaines façons qui nous mèneront dans des directions meilleures. Et quand on parle d'énergie aujourd'hui, quand on parle de politique, quand on parle de science, quand on parle de médecine, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut sortir des ornières dans lesquelles on s'est mise, de manière à voir qu'il y a tout à fait autre chose qui existe aussi, d'autres éclairages, d'autres manières de comprendre les mêmes situations. Par conséquent, d'autres solutions que celles qu'on a appris à mettre en œuvre jusque-là.
Ce que vous proposez finalement dans ce livre Être au futur sur votre site paléo-énergétique, c'est de penser autrement, de changer d'altitude ensemble, quoi.
Tout à fait.
En revisitant le passé en plus. C'est ça qui est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, quand on pense innovation, on pense uniquement nouvelles technologies.
On peut imaginer que le passé est aussi une espèce d'excitant pour l'esprit, en fait. Hein. Peut-être que tous ces brevets, toutes ces idées ne sont pas toutes réalisables telles quelles, mais en tout cas...
Oui, il y a des idées complètement folles, mais ça peut...
Voilà, mais en tout cas, elles sont là pour nous exciter et pour nous donner envie d'aller voir autre chose. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux que Bertrand Piccard nous ait pris sous son aile. Changeons d'altitude, oui, pensons autrement. Ou en tout cas, autorisons-nous à penser de manière latérale et pas frontale. Tout le temps.
Et puis, dans l'innovation, si vous n'êtes pas un bon historien, vous passez à côté de ce qu'on appelle les antériorités. Dans le brevet, en fait, on fait de la recherche en antériorité pour savoir si quelqu'un a déposé, comme nous... un brevet dans la même branche technique, etc. Et aujourd'hui, c'est pas tellement fait, en fait. Aujourd'hui, le digital, en fait, il a fait que d'un seul coup, on a l'impression que tout ce qui existe est sur Internet. Eh bien non, dans les archives des brevets, il y a des papiers, il y a des magazines, on en a plein à Station E, on les présente sous vitrine. Il y a de la gravure, il y a des Systèmes D, la fameuse revue française des bricoleurs. Il y a plein de choses qui sont pas aujourd'hui digitalisées. Et qui sont accessibles, qui sont partageables, souvent dans un français ou dans un langage technique extrêmement simplifié, donc en plus c'est méga accessible. Et si vous voulez, c'est un domaine public qui est énorme, en fait, qui n'est pas exploré, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est sur Internet, mais c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui sont hors d'Internet, et c'est pour ça que nous, on fait des conférences et qu'on fait des expositions. On va à la rencontre du patrimoine oral des territoires. Aujourd'hui, on est en train de concevoir un kit pour les communes, qui va permettre, si vous voulez, de faire une expo, de faire une conférence, d'aller voir les retraités. Nous, notre rêve, c'est de faire travailler les retraités de l'industrie gazière et électrique française. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le savoir aujourd'hui sur l'énergétique en France. Et j'ai envie de leur dire, rejoignez Paléo Énergétique, rejoignez les groupes de travail, parce qu'on va faire des belles choses sur nos territoires.
Pour notre présent, il faut avoir de la mémoire. Pour inventer un autre futur, il faut avoir de la mémoire.
Et du désir, et de l'envie, et de l'appétit.
Oui, et au fond, vous êtes optimiste, c'est optimiste votre projet, c'est ça qui m'étonne aussi aujourd'hui, c'est que c'est optimiste.
On a le sourire, c'est excitant, on a l'impression de faire partie d'un grand jeu, parce qu'on est, on recherche le trésor énergétique, on recherche le Graal énergétique, et un de vos invités dans l'émission sur la mémoire du futur le disait très bien, monsieur Eustache.
Francis Eustache.
Francis Eustache, il expliquait très bien que... Voilà, si vous n'arrivez pas à retourner dans le passé, donc à avoir votre mémoire, vous n'allez pas pouvoir faire fonctionner votre mémoire pour envisager le futur. Et ben, c'est exactement la même chose pour notre société. Si on n'arrive pas à bien se souvenir ce qui s'est passé hier, on n'arrivera pas à savoir ce qui peut se passer demain.
Et c'est là où vous parlez du désir, Eric Dussert, parce qu'il est évident qu'il faut avoir le désir de se projeter vers l'avenir. Et pour ça, il faut avoir envie et avoir conscience de ce qu'il y a eu avant. Quand même.
Tout à fait. Moi, je pense toujours à ce petit gamin qui va à l'école avec son sac à dos solaire et qui a le désir de faire ses devoirs en rentrant à la maison. Voilà, pour moi, c'est l'avenir.
Petit appel à nos amis auditeurs, d'ailleurs, sur le continent africain, parce que des idées, il y en a au sud. Hein. Quand il y a moins de moyens, il y a souvent plus d'idées, sans faire de généralité.
C'est donc, sûr. On les attend. On attend des participations. On ouvre des groupes de travail. On a ouvert au Maroc, on ouvre des groupes de travail quand on fait nos conférences à l'étranger. Ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe sur le site web. Et aussi, on recueille bien sûr des imaginaires collectifs. On a besoin de réinventer nos utopies. Zola l'a fait très bien, d'autres l'ont fait aussi après lui. Aujourd'hui, et je dédicace ce petite référence à Jean-Jacques Vallette, il y a des utopies à faire sur notre futur énergétique et nous, on compte bien y participer.
Merci pour toutes ces utopies. Merci d'être venu en direct. Cédric Carl et Eric Dussert, donc je renvoie évidemment sur votre site paléoénergétique.org et sur ce livre paru Rétrofutur, paru aux éditions Buchet-Chastel, avec plein d'illustrations dont nous avons un exemplaire et un seul, malheureusement. À vous faire gagner, amis auditeurs qui êtes loin d'ici, il vous suffit de nous le demander par mail sur notre page Facebook. Demain commence tout de suite sur RFI en regardant dans le rétroviseur. On se quitte évidemment collectif avec Mo Kouyaté. Le morceau s'appelle Tala, le partage.
Mouloube Mola, Mouloube Tala, Mouloube Tala, Nini no Kama.
C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, à rebrousse-poil toujours, pour nous interroger sur les vertus de l'échec avec le philosophe Charles Pépin. Comment changer de regard sur nos échecs, à suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Tania Tikounas en coulisses. Merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Chers amis auditeurs, ce sera bientôt l'heure du prochain journal. Le bébé marala, ou le bébé élégant.